Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant la démonologie. C'est donc la suite de séries que j'ai déjà fait autrefois, mais c'est pour compléter. C'est un complément absolument nécessaire, important. Donc, nous aurons pour commencer le choix vous appartient. La délivrance, deuxième partie. Et ça continuera. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Saint Marc, chapitre 16, verset 17. Ensuite, notez s'il vous plaît, Saint Luc, chapitre 10, verset 19, où il est dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Avant de continuer, chers amis, croyez-moi, c'est vraiment à contre-cœur, donc pas avec plaisir, que j'utilise le terme « démon ». Je suis conscient que 80% environ des humains actuellement pensent que Dieu, les anges, Satan et les démons n'existent pas. Que nous sommes un peu comme le rat meurt et tout est terminé. Donc l'enseignement biblique d'une résurrection, tout cela, c'est pour la plupart du folklore de nos lointains ancêtres. Mais ne soyez pas trop sûrs de cela, car il y en a qui verront un jour, mais ça sera trop tard. Je suis triste pour eux, évidemment. Je suis vraiment triste. Chers amis, nous constatons que Jésus a donné à ses serviteurs autorité sur les démons, et cela en son nom, par son saint nom. Hélas, la délivrance a une très mauvaise réputation dans les églises chrétiennes, en raison des pratiques non scripturaires qui sont utilisées par beaucoup de personnes pour la délivrance. Nous passons tous par un processus d'apprentissage, et je regrette de n'avoir pas dit assez clairement que le combat que j'ai dû mener contre les démons en son temps était causé par mon ignorance concernant la manière d'approcher la délivrance. Le Seigneur a exigé que je parle de mes erreurs tout comme de mes succès. Je veux souligner donc le fait qu'à présent, je ne parle pas avec les démons et que je ne leur permets d'aucune manifestation physique. Contrairement à ce que je faisais au début de mon ministère. Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, il ne m'aurait pas fallu autant de temps pour délivrer Élise. Mais nous devons bien savoir que nous ne sommes pas Jésus. Si nous parlons avec les démons, eh bien nous commettons un péché, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans Deutéronome, chapitre 18, versets 10 à 12. L'Écriture sainte interdit formellement la consultation des esprits, selon le Deutéronome, chapitre 18, versets 10 à 12. Que signifie consulter les esprits? Cela signifie de parler avec un démon pour obtenir de lui des informations. Les sorciers ont en eux certains démons particuliers auxquels ils font constamment appel pour obtenir des informations. Lorsque un chrétien s'appuie sur des informations obtenues d'un démon lui-même, pour savoir qui est le démon et comment il est entré, etc., il ou elle tombe aussi dans le péché de consultation d'un esprit. En dernier lieu, nous sommes en tant que chrétiens des temples du Saint-Esprit, ne l'oublions jamais. Il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 15, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part à la fidèle avec l'infidèle? Le Saint-Esprit de Jésus-Christ n'a absolument aucune communion ni aucun accord avec Bélial, ni avec un démon quelconque. Par conséquent, tout chrétien qui permet à un démon de prendre le contrôle de son corps d'une manière quelconque commet un péché. L'épître de Saint Jacques, en particulier les chapitres 3 et 4, nous enseigne que c'est nous qui avons la responsabilité de contrôler notre corps. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Jacques, chapitre 3, verset 2. On continue avec Saint Jacques, ça se trouve dans le Nouveau Testament, chapitre 4, verset 8. Il est dit, Jacques nous demande, de purifier nos mains et nos cœurs. Il y a de nombreux passages de l'Écriture sainte qui font référence à notre devoir de contrôler notre corps. Le principal obstacle à la délivrance, c'est le péché. Nous ne devons pas pécher en demandant des informations aux démons. Nous ne devons pas pousser les personnes pour lesquelles nous prions à pécher en devenant des médiums ou des instruments que les démons utilisent pour s'exprimer. Ces pratiques sont condamnées par la sainte parole de Dieu. Le Seigneur m'a ensuite clairement montré, chers amis, que la délivrance doit être un acte de foi. Toute notre marche chrétienne est fondée sur la foi. C'est vrai ou pas? Tout ce que nous recevons du Seigneur, nous le recevons par la foi. La délivrance n'échappe pas à cette règle. Comment la foi opère-t-elle en matière de délivrance? La foi est l'acceptation absolue comme un fait certain que Dieu accomplit toujours sa sainte parole. Par conséquent, la délivrance, elle s'appuie sur la sainte parole de Dieu. Nous acceptons comme un fait absolument certain que lorsque nous nous plions au commandement de Dieu, Dieu tiendra toujours ses promesses. Alléluia. La délivrance s'appuie donc sur les passages suivants. Notez s'il vous plaît 1er épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 9. Il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1er épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Notez également Saint Luc, chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. On a dit donc Saint Luc, chapitre 10, verset 19. Donc, mes chers amis, si nous nous repentons et si nous confessons nos péchés, Dieu nous purifiera. Ça, c'est tout simple. Évidemment, tout cela n'est pas automatique. Le seul fondement de la délivrance est une véritable repentance. La repentance, c'est, premièrement, se détourner du péché et se consacrer à la mise en ordre de notre vie. Et deuxièmement, ressentir un profond chagrin, des regrets, de la contrition à propos de quelque chose. Vous ne pouvez pas délivrer quelqu'un qui continue à pratiquer activement le péché ou qui ne veut pas être délivré. La délivrance comporte quatre étapes très simples. Première étape, identifier les portes d'entrée, c'est-à-dire les péchés qui ont profané notre temple. Vous avez maintenant compris ce que c'est notre temple, n'est-ce pas? Deuxième étape, se repentir. Se repentir, c'est de confesser nos péchés et demander à Dieu de nous pardonner et de nous purifier. Évidemment, cela nécessite un peu d'humilité. Troisième étape, commander aux démons qui sont entrés par ces péchés de nous quitter pour toujours. Quatrième étape, arrêter de pécher. Imbiber complètement notre vie de la sainte parole de Dieu. Alléluia. Lorsque la délivrance est faite comme un acte de foi, on ne doit permettre aucune manifestation démoniaque. Ceci fut une clé, un Schlüssel. C'était donc une clé fondamentale pour m'aider à comprendre comment le Seigneur voulait que la délivrance soit pratiquée. Il n'était pas étonnant que je passe des moments aussi pénibles pour essayer de chasser les démons. Lorsque j'ai compris tout cela, et que j'ai commencé à pratiquer la délivrance comme un acte de foi, il n'y a plus eu de combat contre les démons. La délivrance est devenue très simple. En tant qu'être humain, nous compliquons beaucoup trop les choses. Dieu fait tout simplement. La délivrance passe donc par les étapes suivantes. Donc, premièrement, repentez-vous des péchés qui ont permis aux démons de pénétrer. Commandez aux démons qui sont entrés par ces péchés de partir. Hein? Loin, partez. Acceptez par la foi. Je répète, nous devons accepter par la foi que Dieu accomplit toujours sa sainte parole. Si nous nous repentons sincèrement de nos péchés, Dieu nous purifiera certainement et les démons devront partir. Dès que la confession du péché est faite et dès que l'on a ordonné aux démons de partir, il nous faut accepter par la foi qu'ils sont effectivement partis. Étudions à présent chacune de ces quatre étapes de la délivrance. Prenons d'abord l'étape numéro 1. Nous devons identifier les portes d'entrée, c'est-à-dire les péchés qui ont profané le temple, qui ont profané notre corps, âme et esprit. Comme je l'ai déjà dit, je ne crois pas que les démons puissent entrer dans une personne par n'importe quel péché. Je crois que ce que j'appelle péché, qui profane le temple, concerne les trois catégories suivantes. Écoutez bien. Premièrement, l'hérédité. Ce fut mon cas, avec un père qui s'est marié 5 fois. Avez-vous bien entendu? Deuxièmement, toute implication dans l'occultisme. Et troisièmement, les péchés sexuels. Vous savez, je n'aime pas faire la guerre à des églises, à des religions, à des personnes. Non, 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 j'ai dépassé tout cela. C'est fini. C'est à Dieu de juger, pas à moi. Mais si je suis un serviteur de Dieu, prêtre ou pasteur, croyez-vous que je ne vais pas avoir un gros, gros problème un jour quand je paraîtrai devant mon Seigneur si j'ai fait de la pédophilie? Non, je vous pose la question, à vous de répondre. Au cours des CD précédents, j'ai déjà parlé de nombreux péchés précis qui concernent plusieurs domaines. Cette première étape consiste à prendre du papier et un stylo et à passer soigneusement en revue toute votre vie depuis votre naissance. Demandez au Saint-Esprit de vous mettre en mémoire tous les péchés que vous avez oubliés. Inscrivez-en la liste sur le papier. J'ai découvert qu'il est utile de faire une liste de ces péchés par ordre chronologique, c'est-à-dire en commençant par la naissance et en les inscrivant dans l'ordre où vous les avez commis au fil des années jusqu'au plus récent. Dans mon cas, c'était laborieux, Croyez-moi, je le souhaite à personne, ce que j'ai vécu, à personne. Si vous conseillez quelqu'un, demandez-lui de vous parler de sa vie, aussi loin que ses souvenirs peuvent remonter. Recherchez les péchés qui entrent dans ces trois catégories. Ne tombez pas dans le piège qui consiste à confondre les portes d'entrée avec les symptômes. Les gens se plaindront souvent de choses telles que la dépression, une sorte de burn-out, la colère, le ressentiment, un tempérament violent, etc. Ce ne sont que des symptômes. La cause sous-jacente, c'est le péché qui a permis aux démons d'entrer dans cette personne. Tous les démons peuvent provoquer la dépression. Et comment ? Peuvent provoquer tout à coup une colère subite. On a de la peine à s'entendre avec quelqu'un qui a ses problèmes. Il y a la rébellion, il y a la haine, le ressentiment, j'ai déjà dit, etc. Recherchez donc toujours la cause fondamentale. En second lieu, soyez méthodique. J'ai découvert que l'une des raisons les plus communes d'une délivrance incomplète est due au fait que l'on n'a pas été méthodique. C'est la raison pour laquelle tout doit être écrit sur une feuille de papier. Si vous ne le mettez pas par écrit, les démons mettront la confusion dans votre esprit et vous le feront oublier. Ça n'a rien à faire avec Alzheimer. Il n'est donc pas nécessaire de demander à la personne de vous donner trop de détails, spécialement dans le domaine des péchés sexuels, car cela me regarde pas. Si vous le faites, vous ouvrirez la porte à toutes sortes de tentations par la convoitise. Par exemple, les péchés sexuels entrent dans 8 catégories. Je demande simplement aux personnes si elles ont été impliquées dans l'un ou dans l'autre de ces péchés. Le cas échéant, je leur demande de nommer les personnes avec lesquelles elles ont péché afin de pouvoir confesser individuellement chaque contact sexuel. Mais je ne leur demande aucun détail. Encore une fois, cela ne me regarde pas. C'est pas mon problème. Voici, chers amis, les 8 catégories de péchés sexuels. Premièrement, les relations sexuelles avec quelqu'un en dehors du mariage. Deuxièmement, les relations sexuelles avec une personne du même sexe. Troisièmement, l'inceste. Il y a des pays où l'inceste se fait presque tous les jours. Quatrièmement, les relations sexuelles avec des enfants. Cinquièmement, les relations sexuelles avec des animaux. Croyez-le ou pas, j'ai été témoin d'une chose pareille il y a environ 60 ans, puisque j'ai maintenant un très, très grand âge. Sixièmement, les relations sexuelles avec des démons. Septièmement, le sadomasochisme. Et huitièmement, la pornographie. Lorsque vous aidez une personne à faire une liste des portes d'entrée aux démons dans sa vie, il est important d'essayer de comprendre à quel point cette personne est devenue passive. Les personnes impliquées dans l'occultisme, surtout si elles ont des problèmes de dépression et de suicide, ont en général une intelligence très paresseuse et très passive. Dans l'occultisme, elles avaient été habituées à faire le vide dans leurs pensées et de ce fait à laisser les démons contrôler complètement toute leur intelligence et tout leur corps. Il faut soigneusement veiller à ce qu'elles reprennent le contrôle de leur intelligence pour qu'elles réussissent à être délivrées et qu'elles puissent tenir les démons éloignés lorsqu'elles auront été délivrées. J'ai compris également qu'il était extrêmement utile d'interroger la personne pour voir jusqu'à quel point les démons la contrôlaient. Plus les années ont passé, et plus le Seigneur m'a régulièrement montré que moins une personne était passive au cours de sa délivrance, et plus elle était susceptible de rester libre une fois délivrée des démons. Il est également utile de déterminer le degré de contrôle que la personne exerçait sur son esprit et le degré de contrôle que d'autres personnes pouvaient exercer sur son esprit. Vous devez établir deux listes de péchés. La première liste concerne les péchés qui ont permis aux démons d'entrer dans la personne, c'est-à-dire les péchés qui ont profané le temple. Vous avez compris, votre corps, âme et esprit. La seconde liste concerne les péchés qui ne constituent pas des portes d'entrée aux démons, mais qui doivent tout de même être confessés en tant que péché. Celui qui prie pour la délivrance doit toujours se tenir beaucoup dans la prière. Si le Saint-Esprit ne vous donne pas une paix parfaite, et s'il vous semble que la personne n'est pas complètement honnête envers vous, lorsque vous établirez la liste des portes d'entrée, restez au point où vous serez parvenu. Je suis souvent stupéfait de voir de quelle manière les gens peuvent mentir. J'ai rencontré constamment des gens, il y a fort longtemps de cela, comme je l'ai déjà mentionné, qui me regardaient d'un air le plus innocent du monde, en me disant qu'ils m'ont tout dit sur leur porte d'entrée, tout en me cachant délibérément des péchés très très importants. N'ayez donc pas peur d'attendre. Ne vous engagez jamais dans une délivrance si le Seigneur ne vous demande pas de manier et de manière précise de faire cela et de vous engager dans cette bataille. Nous arrivons à l'étape numéro 2. Repentez-vous et confessez ces péchés à Dieu, en lui demandant de vous pardonner et de vous purifier. À mon avis, il est dommage que l'on prêche si peu la repentance de nos jours. Il est rare que des chrétiens prennent la peine de faire une liste de tous les péchés auxquels ils peuvent penser pour les confesser de manière précise au Seigneur. J'ai découvert que ceux qui font cela tout au début de leur conversion ont très peu de problèmes à croire qu'ils sont maintenant sauvés. Trop de chrétiens ont des combats quant à l'assurance de leur salut. Si les chrétiens étaient plus empressés de confesser leurs péchés, je crois que peu d'entre eux auraient ces combats-là. En confessant les péchés, il faut que chaque péché auquel l'on peut penser soit vraiment confessé. Il faut aussi commander au démon de partir, mais seulement quand on a confessé les péchés qui ont ouvert la porte à ces démons. Je crois que l'une des façons d'accomplir ce qui est écrit dans Saint Jacques, chapitre 5, verset 16, c'est de faire ce que je conseille, c'est-à-dire c'est de faire une liste précise des péchés et les confesser individuellement. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Saint Jacques, chapitre 5, verset 16. Les péchés ont été commis un à un. Alors, ils devraient être confessés un à un, chaque fois qu'il est possible. Lorsque une personne se repent de ses péchés et demande au Seigneur de lui pardonner et de la purifier, elle enlève au démon tout droit qu'il pourrait invoquer pour s'accrocher à cette personne. C'est donc pourquoi la délivrance, lorsqu'elle est pratiquée de cette façon-là, est tellement plus rapide et facile. Il a fallu 10 heures pour la délivrance en 100 ans, une délivrance complète pour Elsie. Depuis que le Seigneur m'a enseigné cette approche de la délivrance, je peux à présent aider une personne aussi complètement infestée de démons que Elsie à obtenir une délivrance totale en 2 ou 3 heures. Évidemment, vous avez compris, cela ne se fait pas simplement en claquant des doigts. Si vous avez le sentiment qu'une personne ne se repent pas véritablement de ses péchés, n'allez surtout pas plus loin. Attendez que le Saint-Esprit lui donne une conviction de péché. Cela peut prendre des jours, voire même des semaines. Et là encore, il vous faut être très sensible à la direction du Saint-Esprit dans chaque cas précis. Nous arrivons à l'étape numéro 3. Commandez aux démons qui sont entrés par le moyen des péchés qui profanent le temple de sortir de vous pour toujours. Beaucoup de personnes me demandent pourquoi il est nécessaire qu'elles commandent elles-mêmes aux démons de partir, alors que Jésus a manifestement chassé lui-même les démons des autres. Je crois que c'est parce que nous avons aujourd'hui, écoutez bien, le Saint-Esprit. Des tas de chrétiens ne croient même pas cela d'une façon réelle, seulement dans la tête. lorsque Jésus marchait et enseignait sur cette terre, le Saint-Esprit n'était pas encore répandu comme il l'est maintenant. Après l'ascension de Jésus auprès du Père, de Dieu le Père, et après son départ de cette terre, nous sommes entrés, vous et moi, dans une dispensation entièrement nouvelle. Les saintes Écritures exhortent à présent les chrétiens à se purifier eux-mêmes et à travailler à leur propre salut, selon Philippiens, chapitre 2, verset 12. Nous avons à présent une responsabilité que n'avaient pas ceux qui vivaient au temps où le Saint-Esprit n'avait pas été répandu. J'ai aussi découvert que lorsque une personne prend autorité elle-même sur les démons qui sont en elle, ces démons doivent partir. Ceci est particulièrement vrai pour ceux qui ont été impliqués dans l'occultisme. Dans l'occultisme, les gens sont habitués à obéir aux démons et à leur laisser faire presque tout ce que ces derniers veulent faire. Ils franchissent ainsi un grand pas lorsqu'ils comprennent qu'une fois qu'ils servent Jésus-Christ maintenant, ils ont alors beaucoup plus de puissance en Jésus que n'en ont les démons. Il est donc absolument nécessaire que les personnes prennent autorité au nom de Jésus-Christ sur les démons qui sont en elles. Sinon, elles ne seront pas capables de tenir les démons éloignés après leur délivrance. Il n'est donc pas nécessaire de connaître les noms de tous les démons. Il n'est pas nécessaire de commander aux démons de partir un par un. Commander aux démons de partir en fonction des péchés qui les ont fait entrer. Voyez-vous, la seule occasion où vous devez nommer les démons de manière précise, cela concerne les personnes impliquées dans l'occultisme et qui travaillent avec certains esprits guides. Ces esprits doivent être chassés individuellement, c'est vrai. Il faut donc leur commander de partir en les appelant par leur nom. Dans ce cas, les personnes concernées connaissent déjà les noms de ces démons. Si ces personnes vous disent qu'elles ne les connaissent pas, elles vous mentent. Il n'est jamais nécessaire de permettre à un démon de se manifester ou de parler par la bouche d'une personne. Plus la personne en train d'être délivrée prendra autorité sur les démons qui sont en elle, et plus la délivrance sera rapide et facile. La question la plus fréquente est la suivante. Si les démons ne se manifestent pas, comment savoir s'ils sont vraiment partis? La réponse est très simple. Parce que le Saint-Esprit vous le dit. Rappelez-vous que les démons sont des esprits et que nous ne pouvons donc pas les voir en tant qu'esprits. Si vous dépendez des manifestations physiques pour croire que les démons sont partis, vous serez trompé, car les démons peuvent facilement simuler les symptômes qui accompagnent leur départ. Seul le Saint-Esprit peut voir les démons. Vous ne devez dépendre que de lui pour votre direction. En outre, si la personne s'est réellement repentie et a confessé ses péchés, les démons sont obligés de partir. Ainsi, vous devez accepter par la foi qu'ils sont partis parce que Dieu accomplit toujours sa sainte parole. Nous arrivons à l'étape numéro 4. Arrêtez maintenant de continuer de pécher. Imbibez complètement votre vie de la sainte parole de Dieu. Dans tout ce processus, il y a un point extrêmement important que beaucoup de personnes négligent. C'est cette étape numéro 4 de la délivrance. Arrêtez de pécher. Vous devez être un véritable croyant en Jésus-Christ pour avoir autorité sur les démons. Mais vous ne pouvez pas être un croyant sans être également un croyant obéissant. Nous devons obéir. Wir müssen folgen. Notez maintenant Saint Jean chapitre 14, verset 15 et le verset 21 qui nous dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Car ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Saint Matthéus, chapitre 7, verset 21. Rien ne remplace l'obéissance. Si vous pensez être un croyant et servir Jésus, alors que vous n'obéissez pas à ses commandements, tel qu'il les donne dans la Sainte Bible, eh bien vous vous mettez en quelque sorte comme menteur. Vous mentez à vous-même. Vous ne pouvez pas être un croyant sans être également un croyant qui va être obéissant. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Saint Jacques chapitre 4 verset 7. Der Dämon, der falsche, alles was falsch ist in ihnen, muss weggehen. C'est aussi simple que ça. Mais hélas, on ne cite en général que la seconde moitié de ce verset. Voyez, on dit « résistez au diable et il fuira loin de vous », mais on n'aime pas beaucoup la première partie qui dit « soumettez-vous donc à Dieu ». Oui, c'est important. Je ne soulignerai jamais assez la nécessité de respecter la première moitié. Si nous ne sommes pas soumis au Seigneur, et si nous n'obéissons pas à ses commandements, nous ne pouvons pas espérer avoir une autorité quelconque sur les démons. Il n'est pas rare que je refuse de conseiller davantage quelqu'un parce que cette personne ne veut pas renoncer à pécher. C'est tout simplement une perte de temps que de tenter de délivrer une personne qui pratique activement le péché. Bien souvent, je me suis contenté de prier avec cette personne pour demander au Saint-Esprit de la convaincre de ses péchés. Je demande aussi au Seigneur de travailler dans sa vie de manière à l'amener au point où elle acceptera de renoncer volontairement à ses péchés. Trop souvent, les gens ne recherchent la délivrance que pour être soulagés de leurs problèmes et pas parce qu'ils veulent servir le Seigneur et vivre une vie qui lui soit agréable. Chers amis, quels sont les problèmes qui se posent après la délivrance? J'ai observé qu'il y a 5 sérieux domaines principaux où les gens éprouvent des problèmes après leur délivrance. Premièrement, il y a la crainte que les démons soient revenus. Deuxièmement, le désir intense d'éprouver des émotions satisfaisantes. Troisièmement, une intelligence passive. Quatrièmement, le refus de faire face au harcèlement démoniaque qui se produit au moment où l'on récolte ce que l'on a semé. Et cinquièmement, la discipline à exercer sur la nature charnelle ou nature de péché. Donc, revenons à premièrement. Nous avons la crainte que les démons soient revenus. Ça, c'est le problème le plus fréquent de tous. Les gens craignent constamment que les démons soient retournés en eux. Il n'y a que 2 possibilités pour que les démons retournent dans une personne après sa délivrance. A, si la personne commet à nouveau un péché qui profane le temple. B, si la personne demande directement aux démons de revenir en elle. Rappelez-vous que les démons peuvent provoquer, lorsqu'ils sont à l'extérieur, absolument les mêmes symptômes physiques que lorsqu'ils sont à l'intérieur. Des symptômes physiques ou des pensées ne sont pas la preuve que les démons sont retournés. Nous devons demeurer fermes dans la foi qu'ils sont maintenant partis. Si quelqu'un commet un péché qui profane le temple, ouvrant ainsi une porte aux démons, ils reviendront tous à l'intérieur du corps et bien d'autres démons avec eux. Les personnes qui ont été dans l'occultisme sont particulièrement tentées de faire juste une dernière incantation, soi-disant pour s'en sortir. Si elles la font, eh bien, croyez-moi, cela revient à demander à tous les démons de revenir en elles. Mais, rappelez-vous aussi que la Sainte Bible dit que la désobéissance est aussi grave que le péché de sorcellerie. Vous n'avez pas le droit de vous rebeller contre les commandements du Seigneur. Si vous persistez à marcher dans la désobéissance et la rébellion, vous serez incapable d'empêcher les démons de revenir. J'ai souvent entendu des gens me dire qu'ils ne se sentent absolument pas différents après leur délivrance. C'est vrai. La foi n'a pas besoin de sentiments. C'est le fruit de leur vie qui leur montrera qu'ils sont délivrés. Vous ne pouvez pas dépendre de ce que vous sentez lorsque vous avez affaire au monde spirituel. Deuxièmement, il y a le désir intense d'éprouver des émotions satisfaisantes. Comme les êtres humains aiment éprouver des émotions qui les comblent de satisfaction, les gens veulent toujours ressentir quelque chose. Ils veulent sentir les démons partir. Ils veulent sentir l'amour de Dieu. Ils veulent se sentir bien. Mais notre marche, c'est une marche par la foi. La foi n'a pas besoin d'aucun sentiment, d'aucune sensation. L'une des premières choses que le Seigneur fait en nous est de nous détacher de toute émotion agréable. Vous devez simplement obéir, quelles que soient les choses que vous ressentez. Vous devez vivre sans vous soucier de ce que vous ressentez. Les démons ne sont que trop heureux de nous donner des émotions fortes pour que nous devenions dépendants de ces émotions-là. Après notre délivrance, nous ne devrions rechercher aucune émotion forte sous prétexte que ce serait une expérience spirituelle. L'une des plaintes que je peux entendre le plus souvent, c'est que certaines personnes ne pensent pas qu'elles soient délivrées des démons parce qu'elles ne sentent pas le besoin de lire leur Sainte Bible ou de prier. Or, notre nature de péché, cela suffit à nous empêcher de sentir le besoin de faire les choses que Dieu exige. Nous ne pouvons pas prendre cela comme étant une indication que les démons se trouvent encore en nous, ni qu'ils sont à l'extérieur. Ceux qui ont été habités par des démons pendant longtemps sont très dépendants des émotions fortes que les démons leur font ressentir et éprouver. C'est une question de discipline, je dis bien de discipline personnelle, que de commencer à marcher dans l'obéissance et dans la foi en notre Seigneur sans éprouver les émotions fortes que nous désirons. Troisièmement, une intelligence passive. C'est un domaine où se rencontrent de grandes difficultés. Notre intelligence est comme un muscle. Si vous ne vous en servez pas pendant un certain temps, elle s'affaiblit et s'étiole. Il est pénible de renforcer un muscle dont on ne s'est pas servi, mais il est 100 fois plus pénible et difficile de réapprendre à se servir d'une intelligence qui a été passive. Si l'on a été habitué à faire le vide dans nos pensées, on aura tendance à le faire après notre délivrance. Chaque fois que quelqu'un a accepté de faire le vide dans ses pensées, il a directement ouvert une porte, hélas, aux démons pour les inviter à entrer en lui ou en elle. J'ai découvert que le meilleur moyen de rééduquer une intelligence passive et de l'engager dans un programme intensif d'apprentissage de quelques versets bibliques. Quatrièmement, il y a le refus de faire face au harcèlement démoniaque qui se produit au moment où l'on récolte ce que l'on a, hélas, semé. Jésus nous parle dans une parabole d'un démon qui a été chassé et qui va chercher sieben autres démons encore plus méchants que lui et qui revient pour tenter de pénétrer à nouveau dans son ancienne maison. Notez, s'il vous plaît, Saint Luc, chapitre 11, versets 24 à 26. Je dis toujours que le combat pour rester libre après une délivrance est toujours siebenmal, sept fois plus intense que le combat pour obtenir ou obtenir le départ de la délivrance. Beaucoup de gens ne veulent tout simplement pas être confrontés à la moindre difficulté. Ils exigent que quelqu'un s'occupe de leurs problèmes, cela afin qu'ils n'éprouvent surtout aucune difficulté. Mais cela n'est absolument pas possible. Notez Galates, c'est dans le Nouveau Testament, Galates chapitre 6, versets 7 et 8. Là, il nous est dit que nous récolterons ce que nous avons semé. Si nous avons semé le péché en permettant ainsi aux démons d'entrer en nous, alors il nous faudra le récolter. Cette récolte consiste en partie à subir les tourments provoqués par les démons qui s'efforcent de revenir après la délivrance. Ces symptômes physiques sont communs. Rappelez-vous que les démons peuvent provoquer de l'extérieur les mêmes symptômes physiques que lorsque ils étaient à l'intérieur. L'un des tourments démoniaques les plus fréquents après une délivrance, c'est d'entendre des bruits dans les oreilles. C'est pas pour tout le monde pareil, évidemment. Les gens ne veulent pas affronter cela et ils disent que cela montre qu'ils n'ont pas été délivrés. Alors ils refusent d'accepter qu'ils doivent récolter ce qu'ils ont semé et qu'ils doivent combattre les démons. Les gens se lassent s'il leur faut repousser des démons ou des pensées démoniaques plus d'une ou deux fois. Dans ce combat pour rester libre après une délivrance, il leur faudra résister à des démons des milliers de fois. Ils devront se montrer conséquents dans la fermeté de leur position en faveur du Seigneur Jésus-Christ. Si votre tourment est physique, eh bien il vous faut résister aux démons, puis tenir ferme. Nous allons terminer cette étude avec le verset qui se trouve dans Éphésiens, chapitre 6, verset 13. Là, il est dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. La chose la plus difficile pour chacun de nous, c'est de tenir ferme. Veuillez-vous reporter, oui, à certaines études précédentes. Et maintenant, nous avons cinquièmement la discipline à exercer sur la nature charnelle, ou si vous voulez, la nature de péché. Ceux qui ont permis à des démons de demeurer en eux disciplinent très rarement leur nature de péché. Eh bien, ceci est tout particulièrement vrai pour ceux qui ont été impliqués dans l'occultisme. Il est donc impératif que nous éliminions le péché de notre vie après avoir été délivrés. Nous ne pourrons pas conserver notre délivrance si nous ne le faisons pas. Chers amis, nous continuerons notre série encore un bon moment. La prochaine étude numéro 11 sera une étude de nombreux cas pratiques. Chers amis, nous allons terminer par la prière. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui sondes les cœurs, toi qui connais nos plus secrètes pensées, tu vois quels sont les sentiments de chacun de nous. Tu vois nos besoins, nos misères, nos épreuves, nos souffrances, et tu vois si c'est avec une entière sincérité que nous désirons obtenir ton secours contre nous-mêmes et contre les difficultés de la vie qui se renouvelle sans cesse autour de nous. Seigneur, nous n'oserions mettre en doute l'étendue de ta puissance. Pourrions-nous donc ne pas ajouter foi à tes promesses de miséricorde? Pourrions-nous douter de ta sagesse, de la vérité de ta sainte parole? Aide-nous donc, Seigneur, dans notre incrédulité. Aide-nous dans notre langueur d'âme. Aide-nous dans nos combats. Aide-nous dans la tâche que nous devons accomplir chaque jour. Fais pénétrer les vérités de ton évangile dans nos cœurs. Donne-nous cette simplicité, cette confiance qui seule dispose l'âme à entendre ta voix. Seigneur, dirige toi-même nos pensées, nos paroles, nos actions. Fais-les concourir à l'avancement de ton règne sur la terre et que nous puissions, par ton assistance, nous édifier et nous secourir mutuellement. Bénis nos parents, nos amis, bénis tous ceux qui souffrent. Soutiens-les et que ton saint nom soit invoqué et glorifié éternellement. Et éternellement. Merci Seigneur également d'avoir permis que ma voix a été intacte jusqu'au bout, miraculeusement. À 90 ans, c'est pas évident, car je ne pouvais presque pas parler avant. Merci de ce miracle. Et merci parce que tu veux aussi donner des réponses, donner des miracles, des exaucements à ceux qui prient avec tout leur cœur pour leurs problèmes personnels, pour leurs maladies diverses. Seigneur, merci que tu nous apprends à nous aimer les uns les autres, à prier les uns pour les autres. Et maintenant, je vous dis tous, vous qui écoutez ce CD, ce message, soyez bénis et je vous enlace avec tout mon amour et je vous embrasse vraiment, sincèrement, et que le Seigneur vous bénisse. À demain pour la suite de cette série. Au revoir, mes très, très chers amis.